Nous lisons dans l'Épître à Tite au chapitre 2. Mais toi, annonce les choses qui conviennent au saint enseignement. Que les vieillards soient sobres, graves, sages, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. De même que les femmes âgées soient dans toute leur manière d'être, comme il convient à de saintes femmes, ni médisantes, ni asservies à beaucoup de vin, enseignant de bonnes choses, afin qu'elles instruisent les jeunes femmes à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, et à être sages, pures, occupées des soins de la maison, bonnes, soumises à leur propre mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes hommes à être sobres, te montrant toi-même en toutes choses un modèle de bonnes œuvres, faisant preuve dans l'enseignement de pureté, de doctrine, de gravité, de parole seule, saine, qu'on ne peut condamner, afin que celui qui s'oppose ait honte, n'ayant rien de mauvais à dire de nous. Exhorte les esclaves à être soumis à leur propre maître, à leur complaire en toutes choses, n'étant pas contredisants, ne détournant rien, mais montrant toute bonne fidélité, afin qu'ils ornent en toutes choses l'enseignement qui est de notre Dieu Sauveur. Car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes, nous enseignant que, reniant l'impiété et les convoitises mondaines, nous vivions dans le présent siècle sobrement et justement et pieusement, attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin qu'il nous rachetât de toute iniquité et qu'il purifiât pour lui-même un peuple acquis, zélé pour les bonnes œuvres. Annonce ces choses, exhorte et reprend avec toute autorité de commander. Que personne ne te méprise.
On s'est arrêté hier à peu près au verset 9 du chapitre 1 et on a pensé que peut-être il était utile simplement d'avoir simplement quelques mots sur les derniers versets, les 6 derniers versets du chapitre 1, mais la pensée n'est vraiment pas qu'on reprenne ensuite sur ce chapitre et qu'on puisse vraiment continuer sur le chapitre 2. Mais on ne voudrait pas non plus donner l'impression qu'il y a ces 6 versets de la parole sur lesquels qui ne sont pas utiles et sur lesquels il n'y aurait rien à dire. Donc je me permets simplement quand même de les relire, et aussi une partie des amis qui n'étaient pas là hier. Donc je vais reprendre peut-être la fin du verset 9. Donc on se rappelle qu'il est question des anciens et qu'ils doivent être capables d'exhorter, tant d'exhorter par un sain enseignement que de réfuter les contredisants. Car il y a beaucoup d'insubordonnés, vains discoureurs et séducteurs, principalement ceux qui sont de la circoncision, auxquels il faut fermer la bouche, qui renversent des maisons entières, enseignant ce qui ne convient pas pour un gain honteux. Quelqu'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Les Crétois sont toujours menteurs, de méchantes bêtes, des ventres paresseux. » Le témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les vertement, afin qu'ils soient saints dans la foi, ne s'attachant pas aux fables judaïques et aux commandements des hommes, qui se détournent de la vérité. Toutes choses sont pures pour ceux qui sont purs, mais pour ceux qui sont souillés et incrédules, rien n'est pur, mais leur entendement et leur conscience sont souillés. Ils professent de connaître Dieu, mais par leurs œuvres, ils le renient, étant abominables et désobéissants, et à l'égard de toute bonne œuvre, réprouvés. Des passages de la parole qui sont peut-être plus difficiles que d'autres, il faut reconnaître ça avec beaucoup d'humilité. Et puis, il me semble qu'il est heureux et tout à fait normal qu'on passe beaucoup plus de temps dans une étude comme celle-là à parler du caractère des anciens, comme on l'a fait hier, entre autres, et puis à parler aujourd'hui de tout ce qui va nous occuper dans ces choses pratiques. On se sent peut-être moins directement concerné, et c'est, il me semble, une grâce de Dieu par ces versets que je viens de lire. On a un peu ce même sentiment, par exemple, lorsqu'on lit l'épître de Jude, avec ces avertissements qui sont donnés par rapport à des faux croyants qui cherchent à renverser les chrétiens par de faux enseignements qui détournent du Christ les paroles. Là, il ne s'agit pas d'enseigner avec douceur peut-être des opposants ou des personnes qui ont des pensées un peu particulières qu'il faut aller reprendre. Là, on est vraiment dans un avertissement face à des faux docteurs qui ont un caractère à la fois dans l'enseignement et puis même sur le plan moral où rien ne va, où il y a quelque chose de profondément dérangeant qui n'est pas selon Dieu, Et alors là, il y a une mission qui était particulière, qui était donnée à Tite. D'ailleurs, on peut penser, il y a un lien en fait avec ses contredisants. Mais en fait, quand on lit bien le passage, on se rend compte que c'était même pas vraiment la mission des anciens qui devait être désignée d'aller reprendre vertement ces contredisants. Ces hommes-là, c'était une mission que Paul déléguait à Tite en particulier à ce moment-là. Hein, c'était à lui qu'il était dit, et non pas aux anciens, même si sans doute à la suite de Tite, ils ont peut-être été amenés à le faire. Mais là, l'exhortation là était spécialement à Tite. Donc, il y avait de ces contredisants, des insubordonnés, discoureurs, séducteurs, en fait, tous les caractères opposés à ce que devaient être les anciens. Ces anciens qui devaient avoir des enfants qui soient fidèles, qui soient soumis en toute soumission, eh bien là, ce sont des insubordonnés, des vains discoureurs, alors que les anciens étaient là, devaient avoir un sain enseignement et tenir fidèlement la fidèle parole, tenir ferme. Voilà, au contraire, des séducteurs qui enseignent des choses qui ne conviennent absolument pas, qui se détournent de la vérité. Et puis, les anciens ne devaient pas être avides d'un gain honteux. Et là, exactement en contraste aussi, eh bien, ils sont avides d'un gain honteux. Donc voilà, il y avait en Crète ces faux docteurs qui cherchaient à entraîner des maisons entières, peut-être en allant dans les maisons des croyants et cherchaient à entraîner après eux des disciples, avec vraiment en détournant de l'enseignement qui était selon Dieu et qui créait des ravages, des grands dangers parmi les croyants. Et alors, qui étaient-ils? Il n'y a pas grand-chose qui est dit vraiment sur le fond de leurs enseignements. C'est sans doute pour dire que ce ne serait pas très intéressant qu'on passe une heure à étudier en détail les faux enseignements. Mais on comprend quand même certainement qu'il y avait un fond de vouloir mélanger le christianisme avec le judaïsme, puisqu'il est dit que ce sont principalement ceux de la circoncision. Et on n'est pas très surpris de cela, parce qu'on voit que c'était un danger dans ces débuts de l'Église, qui était très grand, de vouloir remettre, vous savez, comme on l'a lu à Bordeaux c'est la semaine dernière, je crois, de vouloir mettre un peu des morceaux d'un habit neuf sur un vieil habit et d'essayer de faire marcher ça ensemble, et de vouloir, ou du vin nouveau dans des vieilles outres qui ne pouvaient pas le contenir, et d'essayer à tout prix de recréer une forme de religion en reprenant ces commandements juifs, et puis en mêlant ça aussi avec le christianisme, et c'était un faux enseignement. Et on sait que les pharisiens en particulier avaient non seulement, ça allait bien plus loin, c'était même pas seulement il faut encore appliquer la loi de Moïse, mais c'était appliquer toutes les traditions, tous les commandements d'hommes, et on voit à quel point le Seigneur a lutté contre ça lorsqu'il fallait rajouter des choses en disant il faut se laver les mains absolument avant de faire telle chose, il faut laver l'extérieur de la coupe et chaque plat qu'on va utiliser, sinon on va être souillé rituellement. Il y a énormément de commandements comme ça qui avaient été rajoutés, et on comprend à travers dans ce passage-là, ceux de la circoncision et en lien avec le verset 15, que certainement c'était ça qui était rajouté. On cherchait à remettre les croyants sous une forme de loi rituelle avec des commandements d'hommes et à dire que pour être un bon chrétien, il fallait pratiquer toutes ces choses-là. On comprend que c'est cela. Alors, le verset 12 est, il faut bien le reconnaître, un peu surprenant pour eux, parce que Paul va là reprendre une citation. Alors, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui donne cette citation sur les Crétois. Il va citer un poète crétois en disant, voilà, les Crétois sont toujours menteurs, de méchantes bêtes, des ventres paresseux. Comme s'il y avait une forme de caractère national qui était un peu reconnu, que les Crétois avaient particulièrement tendance au mensonge, à une forme d'agressivité, de colère, peut-être, ces méchantes bêtes, des ventres paresseux, des gens qui vivaient pour leur plaisir, qui ne voulaient pas travailler. Pour reconnaître que ce n'est pas très flatteur, c'est pas peu de chance qu'il y ait un frère ou une sœur qui soit crétois aujourd'hui parmi nous. Je me dis toujours que on a des frères et sœurs en Crète certainement, ça doit leur parler d'une façon particulière lorsqu'ils lisent ce passage. Mais c'est comme si Paul disait, ben finalement, ces caractères des Crétois qui sont bien connus, puisque même eux-mêmes le disent et leur poète le dit, ben s'il y a quelque chose de vrai là-dedans, eh bien, les faux docteurs empruntent ces traits de caractère-là. Mais je crois qu'il ne faudrait pas trop jeter la pierre aux Crétois en disant que nous, on est loin de ça. On ne ressemble pas du tout à ça. On peut se demander quelles leçons on peut tirer pour nous. Finalement, ces caractères qui sont là, si on allait voir dans l'Épître aux Galates, les œuvres de la chair, ces choses-là, elles sont finalement, on a tous un petit esprit crétois au fond de nous. Si on ne le tient pas dans la mort, si on ne le tient pas à la croix de Christ, l'agressivité, la tendance à la dissimulation, au mensonge, l'égoïsme, la paresse, toutes ces choses-là, c'est les convoitises que nous avons, qui sont dans notre cœur naturel. Il faut bien qu'on se dise que notre cœur naturel, je crois, n'est pas meilleur que le cœur des Crétois. malgré la citation de ce poète crétois. Et il y a ces talents-là qui sont en nous, et nous avons à les juger, à les tenir dans la mort, à les tenir à la croix de Christ, et à manifester le fruit de l'esprit, et non pas ces œuvres-là. Mais ces faux prophètes, eux, par contre, laissaient libre cours, justement, à ces caractères naturels, à ce qu'il y avait dans leur cœur naturel, ne jugeaient pas cela, et c'était quelque chose qui se manifestait, et Paul va dire, ce témoignage est vrai, et donc il fallait les reprendre vertement, afin qu'ils soient saints dans la foi, pour les ramener, semble-t-il. C'est difficile de savoir est-ce qu'il y avait vraiment certains qui étaient quand même croyants parmi ces hommes-là, ou peut-être ce verset veut plutôt dire pour les ramener à une foi qui soit saine, pour les amener en fait plutôt à une foi qui soit saine et pas à une fausse religion comme c'était ce qu'ils annonçaient. Reprends les vertements pour qu'ils soient saints dans la foi, qu'ils ne s'attachent pas donc à ces fables, à ces fables judaïques, à toutes ces choses qui ont été, ce fatras de choses qui avaient été rajoutées par les Juifs et imaginées, et au commandement des hommes qui se détournent de la vérité. Et on en arrive à ce verset 15, qui peut être très mal compris. « Toutes choses sont pures pour ceux qui sont purs ». C'est l'exemple type d'un verset, si on le prend isolément de son contexte, et qu'on le brandit comme ça, « Toutes choses sont pures pour ceux qui sont purs ». Moi, je suis un croyant, Dieu déclare que je suis, à ses yeux, je suis pur, donc je peux faire n'importe quoi, toutes choses sont pures pour moi. Ce serait vraiment faire un contresens et ne pas mal appliquer un verset de la parole. Il y a bien ce contexte-là, ce contexte de ces faux prophètes de la circoncision. Et en fait, le Seigneur, l'Esprit de Dieu, très certainement, là, fait allusion à toutes ces choses qui avaient été rajoutées, justement. Donc, quand on lui disait, attention, ça va te souiller, ces choses-là sont pas bonnes, si tu fais ça, ça ne va pas du tout. Il y avait toutes ces règles rajoutées qui mettaient en danger ceux qui recevaient cet enseignement. On leur disait, si tu ne fais pas ci, si tu ne fais pas ça, si tu ne fais pas ça, alors tu vas être impur, tu vas être souillé, tu es un mauvais chrétien, tu n'es pas quelqu'un qui craint Dieu, qui fait ce qu'il faut. Et on les mettait sous une loi qui n'était pas une loi de Dieu, qui était une loi des hommes. Et alors, là, la pensée qui est donnée, je voulais pas lire beaucoup de versets, mais on va les reprendre simplement dans Marc 7, quand même, ce que le Seigneur dit à ce sujet-là, puisque je crois que c'est une allusion à ça. Marc 7, lorsque le Seigneur je cherche le verset, 15-19. Voilà, je vais lire à partir du verset 15, donc c'est sur les reproches qui sont faits sur cette question de nourriture et de commandement. Il n'y a rien, Marc 7, verset 15, le Seigneur dit « Il n'y a rien en dehors de l'homme qui, entrant au-dedans de lui, donc la nourriture, puisse le souiller. Mais les choses qui sortent de lui, ce sont celles qui souillent l'homme. » Et ensuite, au verset 17, ses disciples l'interrogent et il leur dit « Vous aussi, êtes-vous ainsi sans intelligence ?» N'entendez-vous pas que tout ce qui est de dehors entrant dans l'homme ne peut pas le souiller, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, s'en va dans le lieu secret, purifiant toutes les viandes. Et il dit, ce qui sort de l'homme, c'est là ce qui souille l'homme. Et après, le Seigneur parle de ce qui vient de notre, du cœur, du fond du cœur de l'homme, en disant, c'est ça qui vous souille. Ce ne sont pas des aliments que vous allez manger. Donc il y avait cette chose nouvelle en disant, il y a des choses qui sont moralement neutres, dans lesquelles, quand la parole dit cette chose-là est péché, cette chose-là n'est pas pure pour un croyant. C'est très important de bien comprendre cela. Mais quand il y a des choses qui sont neutres, dont la parole ne dit pas que c'est une chose en elle-même qui est mauvaise, qui est souillée, alors ces choses-là, pour le croyant, sont pures. Il n'a pas à se priver, à s'abstenir de quelque chose. Toutes choses sont pures pour ceux qui sont purs. Et par contre, pour ceux qui sont souillés, c'est-à-dire pour ceux qui ne sont pas régénérés, pour ceux qui sont encore loin de Dieu, qui sont encore dans leur péché, qui n'ont pas été lavés par le sang de Christ, pour eux, il n'y a rien qui puisse faire, qui soit quelque chose qui leur fasse du bien. Il n'y a aucune œuvre, il n'y a aucune pratique qui pourrait être pure pour eux, qui pourrait les amener à un degré de pureté ou quoi que ce soit. Il faut d'abord commencer par changer le cœur. Tant que le cœur, le fond n'est pas changé, rien n'est pur. Mais pour celui qui est pur, alors toutes ces choses qui n'ont pas, que la parole ne montre pas comme étant quelque chose de mauvais, sont quelque chose qu'on peut prendre avec action de grâce ou faire librement devant Dieu, sans penser que ces choses-là vont nous souiller. Je crois que c'est là la pensée de ce passage. Et donc, le verset 16, qui est, on va dire, une sorte de condamnation un peu finale, une parole très sévère, toujours sur ces faux prophètes, ils professent de connaître Dieu, mais par leurs œuvres, ils le renient, abominables, désobéissants, à l'égard de toute bonne œuvre, réprouvés, ça veut dire disqualifiés. Tout ce qu'ils peuvent faire, tout le service religieux qu'ils peuvent montrer, n'a aucune valeur devant Dieu, ils sont réprouvés. Il y a cette pensée comme si on les avait mis à l'épreuve, et le résultat montre qu'ils sont disqualifiés, ils sont réprouvés. Voilà. Le Seigneur, c'est une grâce de Dieu, je termine avec ça, de penser que Dans nos rassemblements, sans doute pour chacun de nous qui sommes ici, on n'est pas confronté à des personnes qui enseigneraient avec un enseignement comme celui-là, mais c'est vraiment une grâce. C'est pas quelque chose qui est acquis. Et dans la chrétienté, aujourd'hui, au sens très large, il y a beaucoup de gens qui ont des enseignements, qui sont des enseignements qui éloignent de Dieu, qui mettent les hommes sous des lois, sous des jougs, et qui entraînent tant d'hommes et de femmes, de croyants derrière eux avec des fausses doctrines qui éloignent de Christ. Eh bien, c'est une grâce de Dieu que nous n'ayons pas ça, mais c'est important de savoir ce que la parole dit à ce sujet-là, d'être mis en garde contre ces enseignements qui sont terribles, et la parole nous enseigne à ce sujet-là.
Pour cette raison, n'est-ce pas, frères et sœurs, que il nous faut tenir ferme ce qui nous a été confié par la seule grâce de Dieu. Devant tant de choses qui pourraient aujourd'hui assombrir notre vue, nous attrister au plus profond de nous-mêmes, il y a ce qui demeure, c'est la parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Et ce qui doit compter comme la priorité de notre vie, c'est l'attachement de nos cœurs au Seigneur Jésus. Après ce que nous venons d'entendre, combien cela est nécessaire de le rappeler, parce que c'est la parole de Dieu. Et Dieu nous parle parce qu'il nous aime et il nous avertit. Il semble que, justement, il était bien nécessaire de rappeler ce qui vient d'être rappelé parce que cela introduit d'une manière toute particulière, le chapitre 2 que nous venons de lire, qui commence par cette expression « Mets-toi ». Mets-toi. Chers amis, ce n'est pas un encouragement, une consolation, quelque chose qui nous fait du bien d'entendre ce « Mets-toi ». Oui, on peut aller à la dérive, peut-être aujourd'hui plus que jamais, mets-toi. Voilà ce que le Seigneur vient me dire. Mets-toi, frère. Mets-toi, sœur. Mets-toi, enfant. Mets-toi, jeune. Mets-toi. Il y a un chemin. Il y a le Seigneur Jésus qui demeure. La vérité est là. Jésus revient bientôt. Mets-toi. Tiens ferme ce que tu as.
On mesure peut-être très peu aujourd'hui l'impact du judaïsme et de ses faux docteurs qui étaient insoumis, ils étaient insubordonnés. Insubordonnés, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas soumis à la parole de Dieu, n'avaient pas amené toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et en effet, comme on vient de l'entendre, on a ce « mets-toi » qui est adressé ici à Tite et qui est déjà adressé, sauf erreur de ma part, 4 fois à Timothée. Une fois dans la première épître, nous trouvons ça dans le chapitre 6 de 1 Timothée, verset 12, combat le bon verset 11, ils se sont égarés de la foi, verset 10 du chapitre 6 d'1 Timothée, et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Mets-toi, ô homme de Dieu. Seule personne dans le Nouveau Testament à être appelé homme de Dieu. Et puis dans la deuxième épître, nous avons au chapitre 3, il est parlé de leur folie qui sera manifestée, verset 9, pour tous ceux, comme a été celle de ceux-là, mais aussi, mets-toi, tu as pleinement compris ma doctrine, ma conduite, mon but constant, ma foi, mon support, mon amour, ma patience, mes persécutions, mes souffrances. Et puis encore, on a ce mets-toi au verset 14. Il y a les imposteurs qui iront de mal en pis, séduisant et étant séduits. Verset 14, mets-toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Et puis au chapitre 4, nous avons encore cela. Il y a ceux qui détournent leurs oreilles de la vérité au verset 4 et qui se tournent vers des fables. On est bien aussi dans le même esprit que ce qui est dénoncé dans le premier chapitre de Tite. Mets-toi, sois sobre en toutes choses et endure les souffrances, fait l'œuvre d'un évangéliste. Il y a donc cette injonction qui est personnelle aussi et qui nous amène vers un type peut-être qu'on peut juste quand même citer. Nous sommes invités à être comme dans Lévitique 11. Vous savez, ces poissons dans un milieu ambiant qui pourraient nous infiltrer, avoir des écailles, puis avoir aussi des nageoires pour remonter le courant. Il y avait un courant là, judaïque, extrêmement dangereux, surtout qu'il prétendait avoir les révélations de Dieu, et d'une certaine mesure, oui, la loi était bien la révélation que Dieu avait faite. Eh bien, il fallait remonter le courant. Mets-toi. Et nous sommes tous invités aujourd'hui. Nous n'avons pas affaire à des doctrines judaïsantes, mais nous avons affaire à toutes sortes de doctrines aujourd'hui qui sont véhiculées particulièrement aussi par le web. Il y a tant de choses. Et vous savez comme moi que le web, il n'y a jamais aucune censure. N'importe qui peut mettre n'importe quoi. Personne dira si c'est faux ou vrai. Eh bien, nous avons, par rapport à cela, à entendre aussi ce mets-toi. Attention, il y a énormément aujourd'hui de choses qui sont véhiculées à droite et à gauche par des médias, des choses qui donnent même l'apparence de la vérité. Notre seule sécurité, c'est de nous attacher à la parole de Dieu. Nous cramponner à la parole de notre Dieu. Et alors, on voit que le saint enseignement a des conséquences, parce qu'après enseignement, il y a deux points. Et il est dit que les vieillards soient ceci. Il n'y a pas que les vieillards qui doivent être saints, qui doivent être saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Nous aussi, nous sommes bien d'accord avec cela. Eh bien, on voit que le saint enseignement doit avoir des conséquences très pratiques dans notre vie. Et c'est peut-être, pour moi en tout cas, mais peut-être pour vous aussi, notre plus gros problème. Ce n'est pas sur la doctrine qu'on a des problèmes. Souvent, depuis l'enfance, on la connaît. Mais est-ce qu'il n'y a pas, souvent nous sommes des chrétiens sains d'enseignement, et retenons les choses, on l'a prié tout à l'heure, pas d'une manière, nous risquons de les retenir d'une manière intellectuelle. Pour que ces enseignements passent d'une manière pratique, qui nous est dit les vieillards, voilà ce qu'ils sont, mais en conséquence du saint enseignement. On l'a dit un peu hier, il faut que l'exhortation soit liée au saint enseignement. N'y a-t-il pas un fossé énorme entre ce que je sais et ce que je fais?
Ce qui vient de nous être dit nous montre qu'il y a quelque chose à tirer de ces expressions, saint enseignement. Dans le début de l'épître à Timothée, il est parlé justement de comment se conduire. Ici, c'est pas saint de sainteté, c'est saint de santé, comme on le voit juste après dans le verset 2, saint dans la foi. Aussi, une question de santé. Pour être en bonne santé, il faut un équilibre. Celui qui mange que de la viande, il y aura un gros déséquilibre. Celui qui mange que des choses, des pâtes, il y aura un déséquilibre. Là, on le sait et on a à se nourrir d'une façon équilibrée. La parole nous donne cet équilibre. Il y a aussi autre chose. On voit déjà dans le premier chapitre, verset 9, on a abordé avec Rémi ce verset, un saint enseignement. Ici, il est parlé au premier verset de l'enseignement. Au verset 4, ensuite au verset 7, ensuite au verset 10, et ensuite, chose merveilleuse, cette grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes nous enseignant. L'enseignement ou la transmission de ce que le Seigneur nous confie par sa parole, c'est très très important. Nous ne pouvons pas garder un trésor pour nous-mêmes, nous nourrir à tel point d'avoir une tête grande comme ça et de toutes petites jambes ou des membres tous atrophiés. Nous devons recevoir, oui, premièrement, mais ensuite transmettre. Mais cette transmission se fait pas seulement par ce que je dis, ce que je transmets oralement. Se transmet beaucoup et principalement par ce que je fais. En marchant, en étant, comme il lui dit ici, en étant un modèle pour les autres. On est vu de nos frères, on est scruté par le monde, et alors la question qu'on peut se poser, est-ce qu'on donne envie à ceux du monde, à ceux qui nous côtoient, à nos propres frères, de marcher de cette même manière? Est-ce que nous faisons cette envie ou c'est de la pitié que les autres peuvent avoir en nous regardant marcher, nous traînant peut-être, en connaissant beaucoup de choses, mais nous traînant parce qu'on n'a pas de force dans nos jambes ni dans nos membres pour faire les choses que nous avons apprises. C'est un avertissement que le Seigneur nous donne là, mais qui est d'une importance capitale pour que cet équilibre en chacun soit trouvé, mais aussi dans l'harmonie de l'ensemble des frères et sœurs qui composent le rassemblement. On ne va pas dire les frères et sœurs avec lesquels on est en communion pratique. Le corps de Christ doit marcher d'une manière digne, oui. Il y a des choses qu'on voit dans les autres, dans certains, parmi nos frères aussi, et on va être certainement plus occupé. Ah, regarde comment il fait, lui. On pointe du doigt. Et moi, j'applique les choses que le Seigneur m'enseigne et comment il me donne à connaître, comme il est dit en Éphésiens 3. En 2 Timothée 2, juste un verset de plus, Verset 15, il commence par ce « étudie-toi » et il finit en disant « exposant justement ». On ne peut pas exposer justement si on est, comme on a vu hier, à donner à son sens, insistant sur quelque chose qu'on a compris. Certains frères pourrait parler toujours du même sujet. C'est son cheval de bataille, comme on dit. C'est son thème à lui, que ce soit le thème que ce soit. Mais l'enseignement saint, c'est celui qui est équilibré et celui qui est un homme de Dieu, qui suit les traces du Seigneur Jésus, qui marche dans les mêmes traces que le Seigneur Jésus a laissées sur la terre et que les apôtres ont laissées et que nous, à la suite, on laisse. Alors, cela expose justement. Et comme j'ai lu là, expose justement la parole de vérité. Alors, que le Seigneur nous donne cette capacité de apprendre, être équilibré, transmettre, mais aussi transmettre par l'exemple.
Le mot saint, S-A-I-N, on le voit plusieurs fois dans cet épître. On l'a dit déjà donc au chapitre 1, fin du verset 9, un saint enseignement. On le voit au verset 13, afin qu'il soit saint dans la foi. On l'a vu dans le premier passage, qu'il convienne de nouveau au saint enseignement. Il nous est dit, verset 2, saint dans la foi, dans l'amour, dans la patience. On le voit encore au verset 8, de paroles saines. Donc on voit combien l'importance est mise sur ce côté, on l'a dit, de santé. J'ai regardé au dictionnaire des synonymes. Il y a bon, hygiénique, on sait l'hygiène de vie, combien elle est importante. Stimulant, tonifiant, vivifiant, c'est une parole qui apporte du tonus, qui nous vivifie. Judicieux, je peux présenter la parole, quelque chose de tout à fait juste, mais ce n'est pas judicieux, ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas aux bonnes personnes, et cela peut faire du tort aussi. On l'a dit, équilibré. C'est quoi le contraire de saint, malsain, qui apporte quelque chose qui n'est pas très bon, ou nocif, nuisible, pernicieux. La parole de Dieu, quand on la présente, on peut lui donner ce caractère-là. Comme cela a été dit, parce qu'on n'est pas équilibré, ou comme Benjamin l'avait dit hier à propos du verset 9, le saint enseignement, c'est d'abord l'enseignement qui nous parle du Seigneur. Et puis on l'a dit dire, faire des réunions, on ne peut pas, on doit, il faut, sans arrêt. Ce n'est pas un saint enseignement. Comme cela a été dit, équilibré, je peux parler tout le temps de la sainteté de Dieu, de sa justice, de la crainte de Dieu. Juste, mais si à côté de ça j'oublie son amour, sa grâce, sa bonté, c'est un message qui n'est pas complet et donc qui n'est pas saint. Et donc, l'enseignement saint, c'est quelque chose aussi que nous devons faire très attention. Toujours ce mot S-A-I-N, parce qu'on aurait tendance à dire saint, S-A-I-N-T. Et je pense que ce qui correspond à un enseignement saint, c'est les effets, et les effets, c'est de édifier. Quand on présente la parole, c'est pour l'édification. J'aimerais juste lire deux, trois versets dans 1 Corinthiens 14. Corinthiens 14 au verset 26. Quand vous vous réunissez, chacun de vous à un psaume, à un enseignement, à une langue, à une révélation, à une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Un passage dans 2 Corinthiens 13, verset 10. Afin que, quand je serai présent, je n'use pas de sévérité selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Et un dernier passage dans Éphésiens 4, verset 29. Qu'aucune parole déshonnête ne sorte de votre bouche, mais celle-là qui est bonne
propre à l'édification selon le besoin afin qu'elle communique la grâce. Voilà ce que c'est qu'un enseignement saint. C'est édifier. Si, après le message que j'ai donné, il y a du découragement, voire peut-être de la colère, si on voit que cela n'a pas apporté de l'édification, mon message n'a pas été bon. Cela ne veut pas dire qu'il faut dire toutes les choses justes, hein. Il faut dire les choses qui ne vont pas, mais il faut que le résultat final, ce soit de l'édification. Et n'oublions jamais la grâce. Il faut toujours que ce soit entouré de la grâce. Combien le Seigneur Jésus nous l'a montré, combien de passages nous parlent de la grâce de Dieu. Nous devons croître dans la connaissance et dans la grâce. Parfois, on croit dans la connaissance et la grâce ne suit pas. Eh bien, à ce moment-là, ce sera plus difficile d'avoir un enseignement qui est saint. Et puis, nous avons lu d'être saint dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Saint dans l'amour, S-A-I-N. Combien cela est difficile aussi. Nous devons manifester l'amour. Mais il y a des manières de le faire. Envers quelqu'un qui a péché ou quelqu'un qui est en train de montrer un cœur peut-être rebelle. Est-ce que nous ne devons plus l'aimer? Est-ce que nous devons le rejeter? Non, nous devons l'aimer tout particulièrement. Mais l'amour doit se manifester autrement. L'amour doit se manifester dans une mesure pour qu'il puisse revenir. Et cela demande aussi un amour saint. Un amour divin est un amour qui est saint, qui est juste, on l'a dit, équilibré. Que le Seigneur nous aide en cela. Cela concerne chacun, pas que celui qui enseigne, mais cela nous concerne chacun. Que ce soit la parole de Dieu, que dans la foi, dans l'amour, dans la patience, nous soyons saints, que nous manifestions cette santé. C'est une santé pour nous, mais c'est aussi la santé pour les autres.
Peut-être que pour chacun d'entre nous, les jeunes en particulier, dans le chapitre 2, il y a peut-être, on peut le structurer peut-être en trois parties pour l'étude. Donc du verset 1 jusqu'au verset 10 compris, on a des exhortations très pratiques pour plusieurs types de personnes. Donc on a déjà énuméré un petit peu les vieillards, les femmes âgées, les jeunes femmes, les jeunes hommes, les esclaves. Notamment. Et puis, on a ensuite le verset 11 à 13, qui est très important parce qu'il nous donne le motif impérieux, le motif tout-puissant de ce qui précède. Donc, il y a des exhortations pratiques dans la première partie, mais pourquoi ? Car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes, nous enseignant que, reniant l'impiété, on va sans doute en parler. Donc, car la grâce de Dieu. Pourquoi il y a toutes ces exhortations pratiques? Car la grâce de Dieu nous enseigne. Et ça, c'est quelque chose de fondamental dans ce chapitre, de voir que ce ne sont pas des exhortations pratiques qui sont données comme ça, on va dire. Et bien sûr qu'il plaît à Dieu que nous y répondions, mais c'est même la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus, il nous enseigne des choses. Il nous enseigne. Et il nous sauve, il est dit, la grâce de Dieu qui apporte le salut, il nous sauve, mais cette grâce de Dieu, le Seigneur Jésus, nous enseigne ces choses. C'est notre sauveur, celui qui a souffert à notre place, qui nous enseigne à réaliser ces exhortations pratiques. Et puis, la dernière partie de ce chapitre 2, c'est Dieu qui s'est, au verset 14, qui s'est purifié pour lui-même un peuple acquis, zélé pour les bonnes œuvres. Zélé pour les bonnes œuvres. Pas seulement un peuple qui fait de temps en temps des bonnes œuvres, mais qui est zélé pour les bonnes œuvres. Donc on a un chapitre, on l'a dit déjà, éminemment pratique. Et on comprend bien que, on l'a déjà exprimé, que ce qui nous fait défaut, c'est bien cette mise en pratique. Et elle découle du fait que le Seigneur Jésus nous enseigne à mettre en pratique ces choses. Et on le voit que par rapport aux interventions précédentes, tout cet enseignement pratique est lié à une cohérence avec l'enseignement. Donc on a vu dans le verset 1 les choses qui conviennent au sein de l'enseignement, mais on peut continuer au verset 3. Comme il convient à de saintes femmes pour les femmes âgées, donc les saintes femmes, c'est des femmes qui sont consacrées, des saintes femmes, ben il y a des choses qui conviennent aux saintes femmes, donc il y a une cohérence entre le statut d'une personne, de l'enseignement, et la réalisation pratique, la vie pratique de chacun d'entre nous. On peut voir aussi, fin du verset 5, « afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée ». Donc le comportement pratique, il est directement lié à l'enseignement, à la parole, aux enseignements de la parole. On peut le voir aussi, le verset 10, à la fin du verset 10, c'est une expression qui est très très belle. « Afin qu'ils ornent en toutes choses l'enseignement qui est de notre Dieu Sauveur ». Et donc on comprend, le Seigneur Jésus, qui nous a sauvés, nous enseigne ces choses. Et toutes ces choses pratiques, que nous puissions avoir à cœur de les faire parce que c'est le Seigneur Jésus qui nous enseigne et qu'elles sont complètement cohérentes avec tous les caractères de Dieu, tous les caractères du Seigneur Jésus. Et peut-être juste lire quelque chose un verset qui était devant moi il y a quelques semaines, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 6, le Seigneur Jésus parle de celui qui a bâti sa maison et qui a creusé profondément. Et dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 6, verset 47, il est dit « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi et qui entend mes paroles et les met en pratique. » Il est semblable à un homme qui a bâti une maison. Et verset 49, « Mais celui qui a entendu et n'a pas mis en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement et la ruine a été grande. » Avoir entendu, verset 49, qui a entendu mais qui n'a pas mis en pratique. L'importance de la mise en pratique, elle est rappelée dans ce chapitre 2 et le fait que nous puissions être ce peuple zélé pour les bonnes œuvres.
D'ailleurs, ce qu'on vient d'entendre, ce qui est très frappant, c'est que l'homme qui a bâti une maison, on l'a pris dans Luc, mais si on le prenait dans Matthieu, c'est juste la conclusion du serment sur la montagne, où le Seigneur enseigne. C'est la conclusion. Comme si le Seigneur disait, maintenant sur quoi vous allez bâtir? Il y a, par rapport la parole de Dieu ne soit pas blasphémée, il y a un exemple dans l'Ancien Testament qui est particulier. Nous savons quel a été le comportement de David vis-à-vis de Bathsheba. Et qu'est-ce que Nathan va lui dire dans le chapitre 12, verset 13 du deuxième livre de Samuel, et David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Nathan dit à David aussi, l'Éternel a fait passer ton péché, tu ne mourras pas. Toutefois, comme par cette chose, c'est-à-dire par ton comportement, tu as donné occasion aux ennemis de l'Éternel de blasphémer. Le fils qui était né mourra certainement. Notre comportement, on nous l'a dit tout à l'heure, il est observé. Et quand notre vie est une incohérence entre ce que nous professons et ce que nous vivons, non seulement nous ne sommes pas un témoignage, nous sommes un contre-témoignage. Les amis de Bordeaux, vous avez certainement entendu ce que mon beau-père nous a dit souvent, votre vie crie si fort que je n'entends pas l'évangile que vous m'annoncez. Votre vie crie si fort, je n'entends pas l'évangile que vous m'annoncez. On voit en tout cas pour les femmes âgées, ces saintes femmes, et nous sommes tous des saints en position. Tous ceux ici qui ont reçu le Seigneur Jésus comme leur sauveur sont des saints, pas que les saints du calendrier. On ne peut pas douter que bien des saints du calendrier aient reçu le Seigneur Jésus comme leur sauveur. mais nous pouvons étendre cette notion à tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus comme leur sauveur. Ce sont des saints. Moi qui le dis, c'est la parole qui dit. Ils le sont en position. Mais il y a quelques semaines, il y a eu un feuillet du calendrier Bonne Semence qui parlait de ce verset qu'on trouve, un verset extraordinaire que Jean Quéclin nous a rendu extrêmement précieux. L'homme noble, Ésaïe 32, l'homme noble. Il est noble, il n'y peut rien. Vous êtes né dans cette famille, il est né avec une cuillère d'argent dans la bouche, comme on dit. L'homme noble se propose des choses nobles et il se maintiendra par des choses nobles. Voilà, c'est le résumé de toute notre vie. Le Seigneur a fait une œuvre extraordinaire pour chacun de nous. Nous sommes dans cette position de sainteté. Notre péché est enlevé devant Dieu. Nous sommes des saints par position. Et maintenant, nous sommes invités, nous qui sommes à une telle noblesse, à vivre à la hauteur de cette noblesse. Nous sommes invités à vivre ce que nous sommes. Petite anecdote pour les enfants. Il y a longtemps, j'ai feuilleté un magazine et dans ce magazine, il y avait un prince de ce monde qui s'était fait photographier dans une poubelle. Vous voyez ce qui colle pas? Ça ne convenait pas. Il était prince et il se mettait là où on met les ordures. C'était pour faire rire, pour frapper ceux qui allaient. Mais vous voyez le contre-exemple que c'est? Eh bien que nous ne soyons pas. Nous ne dérogeons pas de la position dans laquelle, par grâce, le Seigneur nous a placés. Que nous vivions ce que nous sommes, ce qui convient à de saintes femmes.
Simplement une expression qui est frappante à propos des saintes femmes, mais je peux... C'est quelque chose, évidemment, qui nous concerne tous, quel que soit notre âge. C'est dans toute leur manière d'être. On a parlé un petit peu hier de cette, au sujet des anciens, de cette cohérence dans tous les aspects de la vie personnelle, familiale, sociale, la vie chrétienne, la vie d'assemblée. Tous les domaines de la vie sont concernés. C'est un peu contre le fait, excuse, je crois que je l'ai un peu dit hier déjà, mais de compartimenter nos vies, ce qui est une tendance naturelle très forte. Et voilà, on est poussé souvent à cela. Eh bien là, c'est pas juste, encore une fois, le dimanche, c'est pas juste dans tel cadre, lorsque vous êtes avec un autre chrétien, etc., puis après, il y a le reste de la vie. C'est dans toute leur manière d'être. C'est très large comme expression. Tout est concerné. La façon dont on parle, la façon dont on se comporte, l'exemple qui est donné, les occupations, à quoi on occupe notre temps, notre journée, toutes ces choses-là, toute notre manière d'être à tout moment de notre vie. Et on est appelé à ces exhortations qu'on a là, elles concernent toute notre vie, toute notre manière d'être. Il faut qu'on se sente concerné par cela.
Peut-être que ça nous amène aussi, en pensant à ce qu'on a évoqué au sujet du saint enseignement, à évoquer ce double caractère de la parole de Dieu. D'un côté, la parole de Dieu comme étant la pleine révélation des pensées de Dieu, des conseils de Dieu, de ses voies, et c'est très important pour chaque croyant, pour rester fermement établi dans la vérité et ne pas dévier. Mais d'un autre côté, la parole de Dieu comme cette puissance effective, comme cette parole vivante, et qui contient en elle-même une puissance de vie et de transformation pour le croyant. Et ces deux caractères complémentaires de la parole de Dieu, mais qui sont l'un et l'autre très importants à garder aussi d'une manière équilibrée, si on peut dire, en tout cas, les deux aspects, sans que l'un ne prenne le pas sur l'autre. Et sur cette pensée de la parole qui est cette puissance divine, active dans le croyant, j'aimerais juste citer trois passages. Le premier, c'est dans la première épître de Pierre. On a parlé tout à l'heure du fait que nous avons été mis à part, sanctifiés, que nous sommes saints par l'œuvre du Seigneur Jésus. Et comment ça s'est opéré en pratique dans notre vie? On peut lire dans 1 Pierre au chapitre 1, cette, on pourrait dire, transformation initiale opérée par Dieu, souverainement par sa grâce. 1 Pierre au chapitre 1 et au verset 22, « Ayant purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité, pour que vous ayez une affection fraternelle sans hypocrisie, aimez-vous l'un l'autre ardemment d'un cœur pur, vous qui êtes régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la vivante et permanente parole de Dieu. » Elle est très forte, cette expression, la vivante et permanente parole de Dieu. Donc c'est bien notre référence quant à toutes les pensées de Dieu qui nous ont été communiquées, mais c'est aussi cette puissance vivante qui nous a donné cette nouvelle vie, qui nous a fait une autre personne, qui nous a régénéré. Et ça, c'est très important. La deuxième partie, le deuxième, on pourrait dire, caractère selon lequel la parole agit puissamment en nous, divinement, c'est un caractère qu'on peut trouver dans Jacques, et ça se rapporte d'une manière particulière certainement au passage qu'on a devant nous aujourd'hui. C'est dans Jacques au chapitre 1. Ça rejoint ce qu'on vient d'entendre aussi quant à mettre la parole en pratique. Jacques chapitre 1 au verset 22. Mais mettez la parole en pratique et ne l'écoutez pas seulement vous séduisant vous-même, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde sa face, pardon, qui considère sa face naturelle dans un miroir, car il s'est considéré lui-même et s'en est allé aussitôt. Il a oublié quel il était. Donc, celui qui lit la parole, sur ce caractère-là, il est devant un miroir. Et combien nous l'avons remarqué certainement tous, lorsque nous ouvrons la parole dans cette position-là, non pas pour en connaître davantage sur les voies et les conseils de Dieu, mais pour s'exposer à la lumière de Dieu, pour que cette parole vivante, qui agit d'une manière mystérieuse, puisse continuer à nous transformer, alors, dans tel ou tel passage, par exemple de l'Ancien Testament, nous trouvons là un miroir qui nous montre exactement ce que nous sommes, qui dénonce tel ou tel comportement que nous avons pu avoir récemment et dont nous n'avions même pas conscience. Ça, c'est la puissance de cette parole active. Et le passage que nous avons devant nous aujourd'hui est caractéristique de ce type d'action de la parole, c'est-à-dire la parole place devant nous toutes choses qui vont mettre en relief tout ce que nous ne sommes pas, selon la pensée de Dieu. Et bien sûr, c'est jamais pour le voir d'une manière négative, mais toujours pour venir trouver auprès du Seigneur Jésus la réponse à toutes ces différences qu'on peut constater en notre propre vie et le modèle que la parole nous donne. Et le troisième caractère, certainement il y en a d'autres, qu'on peut voir de cette parole active, c'est celui qu'on trouve dans Romains au chapitre 10 et au verset 17. Ainsi la foi est de ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Donc notre foi, cette force intérieure qui nous est donnée aussi, puisqu'il est dit que qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc cette foi, elle est nourrie par la parole de Dieu. Là aussi, pas par une connaissance, mais par s'exposer à ces mots divins qui contiennent en eux-mêmes la puissance d'action dans nos vies. Et Romains, au chapitre 14, le dernier verset, nous dit combien cette foi est importante, cette foi produite et renouvelée chaque jour par la parole vivante de Dieu, puisque au verset 23, à la fin du chapitre 14, il est dit « Or tout ce qui n'est pas sur le principe de la foi est péché. » Et c'est bien donc ce caractère de la parole de Dieu dont nous avons aussi besoin, non pas savoir des choses théoriques, mais sans toujours comprendre comment elle agit, s'exposer à cette puissance divine, vivante, contenue dans les mots des Saintes Écritures, pour qu'elle produise en nous chaque jour ce travail qui nous sonde et qui en même temps nourrit cette foi de grand prix qui nous a été donnée.
Très très rapidement, je voudrais revenir donc au chapitre 2 du verset 1 à 10. Comme on a dit, c'est une liste d'exhortations. On voit au verset 11, verset 12 plutôt, qu'après, que reniant l'impiété et les convoitises mondaines, etc. Toutes ces exhortations sont là en fait pour nous responsabiliser. C'est-à-dire que c'est pas dans le cœur, c'est pas dans notre cœur naturel de faire tout ça. Tout ça, c'est marqué parce qu'on en a besoin. Il faut effectivement renier l'impiété. C'est quelque chose, en fait, renier l'impiété et les convoitises mondaines. C'est quelque chose qui demande un effort de notre part. C'est quelque chose que nous devons faire, en fait. Et tout ça, c'est pas naturel. Et si on se dit, bon, mais moi, aujourd'hui, je suis chrétien, je suis un racheté, je suis peinard, mais on fait fausse route. Parce que notre chair est quand même rattachée à ce que nous sommes. Nous sommes quoi? Nous sommes tous pécheurs et nous avons tous besoin, effectivement, bon, on peut le dire, de la grâce de Dieu. Le Seigneur Jésus nous a sauvés, c'est vrai. Il nous a sauvés, mais il nous met aussi face à notre responsabilité. Nous avons à nous remettre en question. Si aujourd'hui je dis, moi, j'ai tout compris, nickel, il y a un problème, toujours un problème. Et voilà, je voulais juste dire rapidement que toutes ces exhortations sont là parce que on en aura tout le temps besoin, parce qu'on est faible et qu'on a tendance à être peut-être plus facilement conduit par notre chair qu'on ose l'imaginer finalement. C'est facile de dire, c'est facile de vouloir faire bonne figure, c'est plus dur de faire les bonnes choses. Donc voilà, tout simplement, c'est juste se rappeler qu'on a chacun notre responsabilité, que Dieu, il nous les met bien en face des yeux et qu'on a, à se remettre en question pour pouvoir avancer.
Je peux aussi citer par rapport à ce qu'on a entendu sur le rôle de la parole de Dieu, le passage dans les Hébreux, au chapitre 4, verset 12, la parole de Dieu est vivante, opérante, plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants atteignant jusqu'aux divisions de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Et il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, en effet, c'est révélateur comme ce miroir de Jacques que nous sommes. J'aurai à cœur et demande au Seigneur de m'aider à le dire parce que j'ai un peu difficile. Il est parlé des sœurs qui enseignent de bonnes choses. Il y a une idée qui circule de plus en plus parmi nous que les sœurs n'enseignent pas. On s'appuie là-dessus sur une mauvaise explication de 2 Timothée, de 1 Timothée 2, le deuxième paragraphe où nous avons cette expression. Il est dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner » et on s'arrête là et on ne termine pas le verset et en cela on tronque la parole de Dieu. « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni user d'autorité » sur l'homme. Il faut lire le verset jusqu'au bout. Alors cette idée qui circule en disant que les femmes n'enseignent pas, il est contredit déjà par ce que nous venons de lire. Et puis dites-moi qu'on explique dans ce cas-là pourquoi Dieu a suscité autant de prophétesses pour ne jamais s'en servir. Que ce soit la sœur de Moïse qui s'appelait Marie, que ce soit Déborah, que ce soit Hulda, la prophétesse, j'en oublie peut-être, que ce soit les 4 filles de Philippe, toutes les 4 prophétisaient, le don le plus éminent. Alors Dieu donne des dons comme ça pour ne pas s'en servir. Hier, Rémi nous a dit quelque chose d'important et qui est un écueil pour nous. C'est que la vie d'assemblée ne se résume pas aux réunions. On a bien dit ça hier. Et peut-être que notre problème par rapport à nos sœurs, je le dis franchement, vient du fait qu'on a limité quelquefois la vie d'assemblée aux réunions. Et en effet, dans les réunions, nos sœurs sont invitées à se taire. Nous sommes d'accord avec ça. mais il y a de multiples occasions dans la vie d'assemblée où les sœurs peuvent enseigner. Seulement, dans le cadre que la parole leur a imparti. Si nous lisons attentivement 1 Timothée 2, je ne vais pas le faire parce que c'est trop long, mais je demande à chacun et à nos sœurs de se placer devant ce deuxième paragraphe où on a juste fait une allusion. Il me semble que c'est évident que le silence de nos sœurs n'est pas d'ailleurs simplement par rapport aux réunions d'assemblée, mais c'est par rapport à la présence masculine. Que nous soyons égaux, hommes et femmes, devant Dieu, c'est tout à fait certain. Mais que Dieu ait donné un statut différent à une sœur par rapport à un frère, la parole nous l'enseigne clairement. Et que cette ordre que Dieu a établi soit respecté et que nous le vivions sur la terre est quelque chose qui est pour la joie de notre Seigneur. Lorsqu'il est dit, par exemple, qu'une sœur qui prie ou qui prophétise, on trouve ça dans 1 Corinthiens 11, n'est-ce pas ? Je ne pense pas qu'on puisse prophétiser à voix basse et on peut penser que le passage nous parle de quelque chose qui est oralisé. Et que la prière aussi est oralisée. Mais 1 Timothée 2 nous parle, et j'insiste là-dessus, sur la présence masculine, où il y a un ordre que Dieu a établi et auquel chaque sœur sera heureuse de se soumettre. Alors permettez-moi aussi de dire quelque chose, parce qu'il y a quelque chose, je crois qu'il faut faire une mise au point par rapport à cela. Alors certaines sœurs disent, et peut-être des jeunes sœurs disent, oui, mais enseigner, on est d'accord, la parole est claire là-dessus. Bon, peut-être pour être complet, j'ai aussi parlé de que les femmes se taisent dans l'assemblée. Aussi, c'est pas parce qu'au fond, elles discutaient, qu'elles bavardaient, qu'elles parlaient tricot, c'est pas cela. Il y a une cohérence dans l'écriture qui montre bien que ce n'est pas seulement du bavardage au fond des locaux, mais que c'était bien une prise de parole. Revenons à ce passage d'1 Timothée 2, et je ferai remarquer à toutes les sœurs que 1 Timothée 2, ce n'est pas le sujet de l'assemblée, mais la maison de Dieu. Et qu'il ne s'agit pas de dire « je ne suis pas à la réunion, donc je peux enseigner quand on est une sœur ». Non, la parole, 1 Timothée 2, ne dit pas ça. C'est par rapport à la présence masculine que le passage nous est donné. Alors certaines sœurs, excusez-moi de pousser les choses un peu loin, disent « oui, mais enseigner, non ». Mais on peut quand même prier. Il y a une expression qu'on entend souvent dans les milieux évangéliques, qui est excellente à mon avis, c'est qu'on, celui qui prie, il conduit les autres dans la prière. Quand quelqu'un prie et qu'il est en public, les autres ne sont pas auditeurs de ce qu'il exprime, on est bien d'accord. Il est la bouche des autres, il conduit les autres dans la prière. C'est pour ça que l'expression me paraît très intéressante. Il conduit les autres dans la prière. Et en cela, chères sœurs, placez-vous devant le Seigneur. Lisez 1 Timothée 2, le deuxième paragraphe. Et demandez-vous si c'est le statut que Dieu vous a confié de conduire dans la prière ou dans l'enseignement. Je vous laisse avec votre Seigneur, parce qu'aujourd'hui, nous sommes infiltrés, pollués par les idées du monde où on voudrait qu'un homme et une femme soient interchangeables, et nous allons à ces abominations qui ont été même légalisées en France, n'est-ce pas ? Ce sont des abominations. Mais n'allons pas même avec un bout d'orteil, dans ce chemin-là, Dieu a établi un statut. Ce n'est pas une question d'égalité, d'inégalité. Le monde a fait une caricature de cela. Non, mais une femme, on ne peut pas dire qu'une femme soit inférieure à un homme, mais pas du tout. Mais elle a un autre statut, elle a un autre rôle. Alors, chères sœurs, placez-vous devant ce passage d'1 Timothée 2. Prenez la place que le Seigneur vous donne, aussi bien dans l'enseignement qu'il peut vous donner. Pourquoi ne vous a-t-il pas confié un don aussi d'enseignement? Où est-ce que la parole dit qu'une sœur ne peut pas avoir un don d'enseignement de prophète? On l'a vu, toutes les prophétesses, les 4 filles de Philippe, exercez-le, mais exercez-le dans le cadre qui vous est imparti.
Mes chers frères et sœurs, ça c'est quelque chose que a été le cheval de bataille de certains. Faire taire les sœurs. On se rappelle que beaucoup de rois fidèles ont eu des mères qui les ont enseignées. On a parlé justement de ce cadre dans lequel cette sœur peut enseigner. Mais pour cela, mes sœurs, il faut apprendre, lire, méditer, étudier, approfondir la parole du Seigneur. Il faut la connaître. Ce n'est pas quelque chose de réservé aux frères les plus âgés du local parce qu'ils vont enseigner. Les jeunes, c'est la même chose. Ici, il est parlé des jeunes femmes et des jeunes hommes. Il faut s'y plonger dans la parole. Il faut l'apprendre. Vous n'allez pas pouvoir dire à un frère, écoute, là, il me semble qu'il y a une erreur dans ce que tu as dit. Si la sœur ne connaît pas la parole, on connaît ceux qui ont connu l'Amérique latine, on connaît une sœur qui a été mère dans beaucoup, beaucoup de rassemblements. Elle était directrice d'une école et qui a appris dans cette école? Tous les frères des rassemblements apprenaient dans cette école. Ils n'apprenaient pas à multiplier, ils n'apprenaient pas seulement à multiplier ou à additionner, ils apprenaient la parole du Seigneur. Et elle leur a enseigné dans ce domaine qu'elle était le sien, mais les frères venaient la consulter à cette sœur. Elle est à la retraite, mais combien de frères encore viennent chez elle pour lui poser des questions? Ça, c'est un passage difficile. Elle enseigne à sa place, avec beaucoup de prières, mais la parole. Alors, les sœurs, ne délaissez pas la parole. Il y a l'enseignement pour les enfants. Il y a peut-être un mari qui ne connaît pas certaines choses. Il y a aussi à transmettre à son mari, pas prenant une position plus haute que lui, pas en lui montrant « tu sais rien du tout, il faut que... viens, je vais t'expliquer ». Pas du tout comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. La soumission même des hommes entre nous, des frères entre nous, c'est toujours considérant l'autre supérieur à soi-même.
Juste lire un verset dans le livre du Deutéronome, chapitre 4, verset 6. Il dit, il s'agit de la parole, de la loi, et vous les garderez et les pratiquerez. Et ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront tous ces statuts et diront quel peuple sage et intelligent que cette grande nation, et quelle est cette grande nation qui est l'Éternel, donc plutôt grande nation, qui est Dieu près d'elle, comme l'Éternel notre Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une conduite là qui est issue de ce que Dieu a donné et qui montre la grandeur de ce peuple. Mais cette grandeur, le peuple, il n'est pas grand en soi. Il est grand à cause de celui qui est au milieu de lui. Et ce que les autres voient, il attribue directement à l'Éternel. Exactement la même chose pour nous. Et la manière dont nous nous comportons montre que Dieu est là. Et on attribue la gloire à Dieu ou bien de façon contraire, comme Benjamin l'a dit. Si on se comporte mal, on l'attribue à Dieu aussi. Nous portons son nom et ce qui se passe, on l'attribue à Dieu. Et c'est extrêmement important. Nous avons à en prendre conscience. Et c'est ce à quoi l'apôtre veut amener les Crétois et sensibiliser ces, et nous avec eux, que notre conduite soit conforme à ce que nous professons. Dans 1 Pierre 3, juste une pensée. Quand il s'agit des femmes, et l'apôtre dit pareillement, vous femmes, soyez soumises à vos propres maris, afin que la même où ils n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans la parole. C'est-à-dire la pratique. La pratique. Mais si nous, à notre niveau, nous n'obéissons pas à la parole, combien plus ceux qui voient. Pensez-y, est-ce que l'assemblée peut être en ordre si nos maisons ne sont pas en ordre? On comprend pourquoi l'apôtre commence et l'apôtre parle de ce que ces femmes âgées doivent faire. Si nos enfants sont tenus, si la maison est tenue, eh bien, cela se ressentira sur l'assemblée. On voit là le rôle, l'importance des femmes, afin qu'elles instruisent aussi. Voilà. Que l'ordre commence par là. Nous avons le saint enseignement, c'est la parole. Maintenant, il faut que notre vie soit en conformité avec cette parole. Et nous sommes à cette école-là. Dans ce que David nous a lu dans Jacques chapitre 1er, nous l'écoutons et elle nous montre ce décalage entre ce que nous sommes et ce que la parole dit. Et notre affaire, ce n'est pas de lire seulement, mais qu'est-ce qu'elle me dit aujourd'hui quant à ce qui me concerne? Et je dois avoir ce désir de me plier à ce qu'il dit. Et je suis formé à son école. Et je crois, si je crois, eh bien, la fin de ce qui s'allume sera bien heureux dans son faire. Nous en arrivons là aux œuvres.
Il est donc parlé des femmes âgées. Cela concerne combien de pourcentage des sœurs ici? À partir de quel âge? 60, 70, 80? Une sœur de 40 ans, vis-à-vis d'une sœur qui a 20 ans, elle est âgée. Et vous ne vous rendez pas compte l'importance que vous avez dans cet enseignement dont il est parlé ici. Il est d'ailleurs parlé d'enseignement et puis ensuite d'instruire, donc c'est répété. C'est d'une importance capitale. Ce que vous pouvez faire dans votre cadre, notamment le cadre de la maison. On a parlé des enfants, mais il est dit ici d'enseigner les jeunes femmes. Donc il n'est pas dit d'enseigner les jeunes hommes, comme cela a été dit, d'enseigner les jeunes femmes. Voilà un cadre. Leur cadre, notamment. Et qu'est-ce qu'elles doivent enseigner afin qu'elles instruisent les jeunes femmes à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à être sages, pures, occupées des soins de la maison, bonnes, soumises à leur propre mari. La liste est déjà longue. Il y a déjà pas mal de choses à enseigner. Mais qu'est-ce qui est important? Et quelque chose qui est dit aux sœurs, c'est elles qui doivent instruire les jeunes filles à aimer leur mari. Concernant les hommes, c'est l'apôtre Paul qui parle directement, qui nous dit d'aimer les femmes. Éphésiens 5, Colossiens 3, nous avons à aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Assemblée. Cela va très loin. Il n'est pas dit là que les femmes doivent aimer leur mari. Elles doivent être soumises. Il n'est pas dit qu'elles doivent aimer leur mari. Mais ici, ce rôle est donné aux sœurs âgées, aux sœurs plus âgées, d'instruire les plus jeunes à aimer leur mari. Et nous savons combien c'est important. Dans un monde où il y a de plus en plus de divorces, de séparations. Et cela, nous le savons bien, c'est quelque chose qui nous touche aussi en tant que croyants. Eh bien, vous avez un rôle là. Enseigner les jeunes femmes à aimer leur mari. Oui, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile de nous aimer. Effectivement. Mais c'est un rôle que vous avez. Et notamment, je parle ici au cas particulier des mamans qui ont une fille et donc qui ont un beau-fils. Lorsque votre fille vous parle de ce que votre mari a fait dans des termes pas toujours agréables, est-ce que vous allez être dans le même avis que votre fille, c'est-à-dire contre votre beau-fils, ou néanmoins vous allez l'aider, même dans ces circonstances-là, à quand même aimer leur mari? Le rôle de famille, on évite dans un parti pris. Eh bien, on voit là cette importance. Oui, vous avez à instruire. Oui, vous avez à enseigner. Puisque vous ne pouvez pas le faire dans le cadre de l'assemblée publique, on va dire. Mais profitez-en d'en faire là où vous pouvez le faire. C'est primordial. Parce que un couple qui ne s'aime plus, même sans aller jusqu'à la séparation ou divorce, eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas un bon exemple pour les autres. Et le mari peut être aussi freiné dans son ministère. Alors, on voit combien c'est l'importance d'aimer leur mari. C'est difficile dans ce monde, parce qu'on entend tout le contraire. Au moindre souci, il faut se séparer, il faut divorcer. Et déjà, ne pas se marier au départ, ce qui est bien sûr contraire à la parole. Et on a vu être sage et instruire les jeunes filles à être sages. Combien nous avons besoin, tous d'ailleurs, de cette sagesse. On l'a dit, aimer leurs enfants aussi. Ah oui, cela paraît normal, mais pour certaines mamans, c'est difficile. Et il dit s'occuper des soins de la maison. Pour certaines mamans, elles s'épanouissent beaucoup mieux au travail ou en dehors. Il est rappelé, s'occuper des enfants, s'occuper de la maison. C'est important aussi. Très important d'ailleurs. Et soumise à leur propre mari, c'est quelque chose qu'on ne veut plus savoir non plus. Et nous avons dit, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Ce rôle que vous avez, eh bien voilà le résultat. C'est afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Quel beau rôle vous avez.
Une pensée sur l'ensemble de ces premiers versets, c'est vraiment cette responsabilité différenciée selon la situation dans laquelle on est. En fait, il y a aussi peut-être des choses qui conviennent, des choses qui conviennent moins, et qu'on a à être sensible à cela. Les paroles Tite, on ne sait pas quel âge avait Tite, mais on comprend que c'était encore un homme relativement jeune. Et il y a des exhortations qui étaient là pour les vieillards et pour les femmes âgées, et on peut dire, Paul a cette délicatesse de... Tite se fait juste le porte-parole de l'exhortation de Paul, hein, dans ce qu'il dit que les vieillards soient, etc., de même que les femmes âgées soient. Voilà ce que je te demande de transmettre de ma part dans cette lettre à ses frères et sœurs plus âgés. Juste un tout petit détail, peut-être on ne l'a pas dit, mais je crois que tout le monde le comprend bien, je précise quand même que les vieillards soient sobres, graves. Grave, le terme aujourd'hui, un peu que tout le monde comprenne bien, mais je suis sûr que c'est le cas. grave ne veut pas dire triste, ne veut pas dire sombre. Hein, il y a une, je pense, une pensée de dignité, hein, qui convient, mais ça ne veut pas dire qu'un vieillard, doit, un frère âgé dans l'assemblée, est appelé à avoir un air sombre. Et voilà, tout le monde comprend bien, mais c'est une parenthèse. Et donc, Paul dit, passe ses exhortations de sa part, et Tite, on comprend bien qu'il est le porte-parole de Paul lorsqu'il dit ça. Et puis ensuite, on l'a déjà bien dit, les femmes âgées ont cette responsabilité particulière envers des sœurs plus jeunes. Et on a insisté sur le fait que cette différence d'âge, effectivement, longtemps en lisant ce passage, je me disais, bon, mais ça c'est le service des sœurs de 70, 80 ans, etc. Mais en fait, non, on est toujours, ça a déjà été dit, donc je n'insiste pas, mais le plus âgé de quelqu'un et une sœur de 25 ans qui est étudiante, ben, quand il y a une sœur adolescente qui est au lycée, eh bien, elle peut, alors peut-être pas encore parler des soins de la maison, de ces choses-là, mais il y a des choses à apporter qui sont utiles, il y a une expérience, déjà quelques années de plus vécues avec le Seigneur, et on voit bien, quand on a des enfants adolescents, quand on a été soi-même adolescent, à quel point des frères et sœurs qui ont juste quelques années de plus que nous, mais qui nous comprennent encore très bien, parce qu'ils sont pas très loin de nous en termes d'âge, à quel point ça peut être utile et ça peut faire du bien. Et aussi, à quel point peut-être dans l'autre cas, ça peut être nocif si au contraire, eh bien, on donne un mauvais exemple. Et je voulais terminer avec ça, dans ce verset 9, eh bien, ensuite, par rapport aux jeunes hommes, eh bien là, Paul dit à Tite, eh bien, toi, Tite, tu as une responsabilité particulière vraiment pour aller vers les jeunes hommes, vers les jeunes garçons, exhorte de même les jeunes hommes à être sobres, te montrant toi-même en toute chose un modèle de bonnes œuvres, etc. Là, tu es dans la sphère particulière de Tite, c'est vraiment, mais alors n'hésite pas, vas-y, les plus jeunes hommes qui sont là, les jeunes garçons, les adolescents, les jeunes adultes, tu as vraiment un service particulier auprès d'eux, va les voir, passe du temps avec eux, parle avec eux, tu peux leur faire du bien, sois un modèle. Et là aussi, je crois qu'il y a un encouragement c'est vraiment très heureux lorsqu'on grandit de connaître dans son rassemblement ou dans d'autres moyens, des rencontres l'été, des rencontres, des réunions de jeunes, tout ce qui peut exister. Le fait d'avoir des contacts avec des croyants, frères ou sœurs un peu plus âgés que nous, qui peuvent être des modèles, qui peuvent nous entraîner vers quelque chose d'heureux, nous faire du bien. C'est quelque chose, je crois, qui est vraiment selon Dieu, quelque chose qui est souhaitable, c'est quelque chose qui est bon. On n'est pas appelé à rester cloisonné. Et à l'inverse, on se rend compte aussi de la responsabilité qu'il y a, quel que soit notre âge. Il y a un peu le contraste avec ce qu'on lit, soit un modèle, s'il y a un frère ou une sœur qui n'est pas un modèle, qui, au contraire, les plus jeunes vont voir quelqu'un de plus âgé tout à coup se comporter d'une façon qui met mal à l'aise. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a aussi une responsabilité, on comprend, qui est grande, parce qu'on peut être un modèle de bonnes œuvres et on peut être aussi un contre-exemple, un contre-modèle. Et c'est une responsabilité qui est importante. Mais voilà, je vous donnais cette pensée générale, c'est que quel que soit notre âge, quel que soit qu'on soit un frère, une sœur, un frère, une sœur, et quel que soit notre âge, on a tous une responsabilité particulière, mais c'est aussi important de voir avec le Seigneur quelle est peut-être cette sphère, quel est ce domaine dans lequel particulièrement, à mon âge, dans ma situation, je suis responsable. Qu'un frère de 20 ans ou 25 ans aille voir un frère qui a 50 ans plus que lui pour peut-être l'exhorter à certaines choses dans sa vie, on comprendrait très bien qu'il y a quelque chose là qui n'est pas heureux, qui n'est pas normal. Il y a peut-être un autre frère qui a le même âge, c'était à lui son service. C'était à lui de le faire. Alors il faut que chacun soit à la place que le Seigneur veut pour nous et demande au Seigneur, mais là où je suis, à l'âge que j'ai, ou là où j'en suis parvenu peut-être aussi, qu'est-ce que tu me montres, quelle est la bonne œuvre que tu me montres par rapport à mes frères et mes sœurs, et en quoi aussi je dois être m'appelle à être un modèle, un encouragement plutôt qu'un contre-exemple par rapport à ceux qui me regardent vivre.
Qu'elles instruisent les jeunes femmes à aimer leur mari. Nous avons aussi, Paul dit dans Éphésiens 5, « Marie, aimez vos propres femmes ». Donc on voit bien que les femmes sont invitées à aimer leur mari et les maris sont invités à aimer leurs femmes. Il y a un auteur du Monde, peut-être certains le connaissent, je crois qu'il s'appelle Daniel Pénat. Il commence un de ses livres en disant qu'il y a des verbes qu'on ne peut pas mettre à l'impératif. Il dit, il y a le verbe en particulier, apprendre, on ne peut pas mettre ce verbe à l'impératif. Et il dit aussi, le verbe aimer, on ne peut pas le mettre à l'impératif. Mais c'est complètement faux. C'est complètement faux. Bien sûr, c'est un homme du monde. Et il pense que l'amour, vous attrapez ça comme ça, ça vous tombe dessus. Un peu comme on attrape la grippe. Ben, oui, ça m'est arrivé, voilà, je suis tombé raide amoureux. Mais c'est pas à cet amour-là que nous sommes invités. C'est pas, faut bien qu'on fasse du vocabulaire, là. C'est quand Dieu nous dit, quand l'apôtre Paul nous dit d'aimer nos femmes et à nos femmes d'aimer leur mari, c'est pas cet amour qui nous domine, nous submerge, celui qu'on peut pas mettre à l'impératif. Nous sommes invités à nous aimer, mais de quel amour? Vous savez, dans le monde, qu'est-ce qui se passe? D'abord, on s'aime, et après, on se supporte. Où est-ce que nous en sommes dans notre couple? Parce qu'au début, c'est le prince charmant. Elle, c'est la princesse. Et puis après, on s'aperçoit que son vernis s'écaille un peu. Et puis qu'il a quand même deux, trois défauts qui commencent à m'agacer. Et que finalement, cet agacement peut tout remplir. Mais c'est là que naissent les problèmes. Parce que l'amour n'est pas alors celui du Seigneur. Or, l'amour du Seigneur lui a fait dire sur la croix, Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Cela, il s'agissait de qui? De ceux qui ont planté des clous dans ses mains, dans ses pieds. Pardonne-leur à qui? À ceux qui l'ont insulté, à ceux qui lui ont craché dessus. Et cet amour, aucun mari ne peut l'inventer. Aucune femme, même si elle se dit, allez, maintenant, il faut que je l'aime, oui, il est comme ça, mais je vais l'aimer. Non, ce n'est pas la peine. Vous n'y arriverez pas. On ne peut pas en fabriquer quoi que ce soit de cet amour. Mais en même temps, nous pouvons le puiser là où il se trouve. Et où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve dans le cœur de notre Seigneur Jésus. Et alors là, d'une manière illimitée. Cet amour de la croix qui m'a aimé, moi qui n'en valais pas la peine, eh bien nous sommes invités à manifester cet amour. Qu'on peut mettre alors à l'impératif, parce que c'est l'amour même du Seigneur Jésus qui fait que j'aime ma femme malgré ses défauts et avec ses défauts, et que j'aime mon mari malgré son égoïsme et malgré tout ce qu'il est. Mais ça, nous avons besoin de puiser cet amour là où il est. La source est ouverte, chers frères mariés, chères sœurs mariées, cette source est ouverte, elle est inépuisable. Et c'est dans la mesure où vous voulez que votre couple marche bien, et bien que chacun des deux ait d'abord cette relation verticale, ayant le cœur rempli de cet amour qui m'a sauvé, ayant le cœur rempli de la grâce qui m'a tout pardonné. Alors peut-être que je vais aussi pardonner quand il y a quelque chose qui n'a pas été dans mon couple. Et elle aussi va me pardonner quand j'ai cet amour remplissant mon cœur, celui qui boira de cette eau-là. Une source jaillissante vers ma femme d'abord, vers mon mari d'abord, jaillissant en vie éternelle. Et alors, quel témoignage dans ce monde! Cet amour-là qu'on peut mettre à l'impératif, le monde ne le connaît pas. Et quand une famille le réalise, avec les enfants aussi, il n'y a pas seulement un témoignage heureux, il y a le caractère même de Dieu. Pas un attribut de Dieu, c'est ce que Dieu est. Dieu est amour. Vous savez, on a un frère, très précieux frère dans le rassemblement, là où je suis, qui est venu du catholicisme, et qui m'a dit, quand j'étais invité par un couple chrétien, j'ai vu qu'il y avait des versets au mur, je me dis, oh là là, oh, ils sont où ces gens-là? Mais elle m'a dit, c'est pas tellement ce qu'on m'a dit. Mais j'ai respiré une ambiance de grâce, de paix, d'amour. Et c'est ça qui lui a pris le cœur. Et permettez-moi, je ne vais pas être trop long, si c'est vrai pour une famille, c'est vrai aussi pour un rassemblement. Vous savez, quelqu'un qui rentre, et là ça arrive beaucoup trop peu dans nos rassemblements, quelqu'un qui rentre, il ne va pas être impressionné par la doctrine. Je ne dis pas que ce n'est pas important la doctrine, mais ce n'est pas ça qui va l'impressionner, ce n'est pas ça qui va... Mais il rentrera et dira « Dieu est au milieu de vous » parce que ce caractère d'amour est manifesté. Il sent que des gens qui sont très différents, qui n'ont pas d'atome crochu, et puis ces gens-là, ils s'aiment. Ces gens-là, ils ont de la joie à être ensemble parce qu'ils sont liés par autre chose que ce mode associatif du monde où quand on fait de la moto, ben on se met ensemble, on fait un groupe de moto. Non, ils sont liés par autre chose. Ils sont liés par quelque chose qui est intemporel, quelque chose qu'il ne comprend pas, mais qui prend son cœur. Aussi, ça pouvait être ça, nos rassemblements. Je ne dis pas que la doctrine n'est pas importante, mais voilà qu'il y a une ambiance de paix dans nos familles, par cet amour que le monde ne connaît pas, mais que le caractère même de Dieu lui-même, qu'il soit respiré dans nos familles et qu'il soit aussi respiré dans nos rassemblements.
Ce qui vient d'être dit, cela veut dire aussi que je dois aimer, je dois, c'est-à-dire que le Seigneur me le demande, je dois aider mon épouse, même si elle ne m'aime plus. Qu'elle soit soumise ou pas soumise, je suis appelé à l'aimer, et vice-versa. Cela, nous le savons, n'est pas facile. Cela n'est possible que grâce à l'Esprit en nous. Comme cela a été dit, à nous nourrir de l'amour du Seigneur Jésus. Nous attendons d'avoir un amour qui répond. C'est la logique, c'est normal. Mais lorsque ce n'est pas le cas, que nous puissions crier à Dieu pour qu'il nous aime à aimer notre conjoint, même si lui ne nous le rend pas. Et le Seigneur nous aidera, même s'il y aura parfois des faux pas, mais le Seigneur sera là pour nous encourager. J'aimerais juste revenir encore sur le fait que les femmes n'enseignent pas. Les femmes, les sœurs n'ont pas à enseigner. Mais le Seigneur les utilise pourtant, alors qu'elles ne sont pas dans le but de le faire. Quand je vais visiter une sœur âgée dans un home, à l'hôpital, et qu'elle parle tout simplement de sa foi, des choses qu'elle a connues, juste dans une conversation comme ça, je retourne à la maison et elle m'a enseigné. C'est le Seigneur qui agit à travers elle sans qu'elle le savait. Et on a parlé de notre comportement. Eh bien, les sœurs aussi, par votre comportement, eh bien, vous pouvez enseigner les autres. Combien cela est important.
En voulant revenir sur ce que tu viens de dire, Marco, les femmes enseignent, c'est bien écrit ici. Il y a une sphère d'enseignement, il y a ceux à qui les femmes enseignent. Enseignant les jeunes femmes, plus les enfants, la maison est le domaine de la femme. Comprenons bien. Cette sphère, il ne faut pas la négliger. C'est le noyau même. Encore une fois, l'assemblée ne peut pas être en ordre si la maison n'est pas en ordre. Tu viens de dire justement combien, chaque fois dans les livres des chroniques, on prend soin de nous donner le nom de la femme d'un roi. Voilà. Nous devons en prendre conscience. Ça commence par là. On ne fait pas, la chose est pourrie à la racine.
Quelques pensées en rapport avec le verset 12 et 13. La,
La grâce de Dieu nous enseigne que, reniant l'impiété et les convoitises mondaines, nous vivions dans le présent siècle sobrement, justement et pieusement, attendant la bienheureuse espérance. La grâce de Dieu, le Seigneur Jésus, nous enseigne d'abord, nous a sauvés, le passé. Aujourd'hui, nous enseigne d'une certaine vie, certaine qualité de vie, en perspective du futur, qui est cette bienheureuse espérance de l'apparition du Seigneur Jésus. Et en rapport avec ces exhortations sur la manière dont nous vivons, on a déjà dit tout à l'heure de cette responsabilité que nous avons de renier, de refuser, de renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Et il y a donc le fait que nous vivions sobrement, justement et pieusement. Et peut-être pour les enfants ou les jeunes en particulier, donc le sobrement, il est en rapport avec soi-même. D'ailleurs, cette notion, on l'a peut-être peu dit, mais à chaque fois, pour les vieillards, pour les femmes âgées, notamment avec le fait de ne pas être asservi à beaucoup de vin, par exemple, la sobriété revient, les vieillards soient sobres, et y compris au verset 6, les jeunes hommes, à être sobres. Donc la sobriété, peut-être dans le premier sens, depuis longtemps, c'est en rapport avec la boisson et avec la nourriture. Mais on peut bien sûr l'étendre avec tout ce que nous ingérons, qui n'est pas par la bouche, mais par les yeux, par les oreilles. Et sans doute que nous avons à être sobres dans ce que nous regardons, dans ce que nous écoutons. Et on a parlé tout à l'heure du web, d'Internet, des smartphones, de tout ce qu'on peut y trouver. Et on peut le dire pour les jeunes, mais je crois observer qu'il n'y a pas que les jeunes qui sont concernés, y compris des personnes qui ont plus de 70 ans, qui passent du temps aussi sur Internet, et je pense que ça nous concerne toutes les générations, peut-être sur différents sujets, mais d'être sobre dans les choses que nous pouvons, de toutes les interactions que nous pouvons avoir avec le monde dans lequel nous vivons et dans lequel nous avons à vivre. Ensuite, justement, c'est en rapport avec ce qui nous entoure, donc dans l'assemblée, dans la famille de la foi, mais aussi dans le monde dans lequel nous vivons. Et c'est sans doute reconnaître les droits des autres, c'est avoir des relations qui soient équilibrées, qui soient empreintes d'amour, de patience et de justice, justement. Et puis, pieusement, on en a parlé hier de la piété, c'est bien notre relation avec Dieu, c'est mettre Dieu, Benjamin a dit une définition, mettre Dieu dans tous les aspects de notre vie, et c'est vouloir plaire Seigneur, à tous égards. Et pour compléter quelques pensées en rapport avec la fin du verset 14, où il est fait mention, parce qu'il est midi moins 5, en rapport avec l'expression « zélé pour les bonnes œuvres ». Donc nous sommes un peuple acquis, zélé pour les bonnes œuvres. Nous devons être zélés pour les bonnes œuvres. Peut-être juste lire quelques versets en rapport avec cette expression. La première, peut-être dans Éphésiens, l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, au verset 10. Donc, au verset 8, on voit « Vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, cela ne vient pas de vous. » Verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous marchions en elles. » Donc, nous avons été créés dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres. C'est pour cela que nous avons été créés. Première pensée. Deuxième, Dieu a préparé à l'avance ses bonnes œuvres. C'est quelque chose qu'on dit régulièrement dans les réunions, mais donc ça veut dire que pour chacune de nos journées, Dieu prépare à l'avance des occasions de faire ses bonnes œuvres. Dans chacune de nos vies, quel que soit le domaine dans lequel nous sommes, le domaine de la famille, le domaine du travail, le domaine des relations avec la famille de la foi, avec les frères et sœurs du rassemblement. Et donc Dieu prépare des bonnes œuvres à l'avance. Un autre verset dans la deuxième épître à Timothée au chapitre 2, au verset 21. Donc c'est un passage qu'on pourrait commencer au verset 20. Il est question de se purifier des vases à déshonneur dans la chrétienté. Et au verset 21, il est dit « Si donc quelqu'un se purifie de ceci, il sera un vase à honneur sanctifié, donc consacré, mis à part, utile au maître, préparé pour toute bonne œuvre. » Tout à l'heure, on a vu la sobriété. Ici, il y a une notion de séparation, d'être mis à part. Et donc, c'est aussi un caractère qui nous permet d'être préparé pour toute bonne œuvre. Si on revient dans l'Épître à Tite, on voit, et on verra sans doute cet après-midi, qu'il y a aussi une instruction, une exhortation au verset 8 du chapitre 3. « Cette parole est certaine et je veux que tu insistes sur ces choses afin que ceux qui ont cru Dieu s'appliquent à être les premiers dans les bonnes œuvres. » S'appliquer à être dans les bonnes œuvres. Est-ce que nous nous appliquons à cela? Et un dernier verset dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10 et au verset 24, il est dit « Prenons garde l'un l'autre pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Peut-être que bien souvent on s'excite, on se sollicite les uns les autres pour autre chose que les bonnes œuvres, et c'est une instruction qui est sans doute utile à avoir dans ce cadre, puisque Dieu s'est acquis un peuple qui doit être zélé, sans doute que le mot zélé nécessiterait un développement, mais pour les bonnes œuvres, donc nous avons été créés pour cela, nous n'avons pas été créés pour autre chose que pratiquer ces bonnes œuvres. La séparation que nous pouvons avoir nous prépare pour ces bonnes œuvres, Dieu nous les prépare à l'avance, et nous avons à nous appliquer à être dans ces bonnes œuvres, et à nous exciter les uns les autres, et ça aussi, c'est sans doute quelque chose de très utile dans les relations que nous pouvons avoir dans la famille ou dans les frères et sœurs de la vie d'assemblée, c'est de pouvoir aussi échanger sur ces choses, de pouvoir nous parler des uns aux autres pour sans esprit de compétition, mais pour nous appliquer à être les premiers dans les bonnes œuvres. C'est pas l'esprit de compétition qui est ici, mais c'est pour avoir de l'émulation entre nous, et pour nous exciter aux bonnes œuvres, pour être des aides les uns les autres, et pour nous entraider à être ce caractère du peuple de Dieu qui a été acquis.